en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission Jean-David Lévite, désormais académicien à l'Académie des sciences morales et politiques, élu le 17 décembre 2007. Ou plutôt, nous avons l'honneur d'être reçus par lui, puisque cette émission se déroule dans les bureaux de Monsieur Lévite à l'Élysée. Précisons, Monsieur Lévite, que vous êtes conseiller diplomatique à l'Élysée, autrement dit, le Sherpa du président de la République, on reviendra peut-être sur cette expression, poste que vous occupiez auparavant auprès de Jacques Chirac. Donc Jean-David Lévite, vous avez également été ambassadeur à Washington, ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, représentant de la France au Conseil de sécurité à New York et chef de la mission permanente française à l'ONU. Bonjour Monsieur Lévite.
Bonjour et je suis très heureux de participer à cette émission, c'est un grand honneur.
Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quel lieu nous sommes, à l'Élysée évidemment, dans un magnifique bureau. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce bureau? Qu'y a-t-il de vous ici?
D'abord, c'est un bureau qui n'est pas situé à l'intérieur du palais de l'Élysée, mais aux deux rues de l'Élysée, la rue qui longe le palais. Et c'est une magnifique bâtisse, un hôtel particulier qui date d'il y a plus de 150 ans maintenant, avec une vue imprenable sur les Champs-Élysées, le Grand Palais. Et c'est un bureau qui a un très grand volume, qui fait plaisir aux ministres que j'ai le plaisir de recevoir régulièrement lorsqu'ils sont de passage à Paris. J'y ai mis peu d'objets personnels, mais chacun est un peu un accompagnement des étapes de ma carrière. Vous avez ici, près de la pendule, des marbres chinois, ce qu'on appelle des pierres de rêve ou des pierres de lune. Ce sont des marbres qui représentent des paysages. Et une boîte en laque noire sont trois objets que j'ai achetés lorsque j'ai vécu en Chine. C'était pendant les années de la révolution culturelle. Je suis de formation du cadre d'Orient, c'est-à-dire que au-delà de ma licence de droit et de Sciences Po, j'ai étudié le chinois et le malais indonésien. Et le Quai d'Orsay m'a envoyé comme premier poste à Hong Kong, puis à Pékin, pendant les années de la révolution culturelle. Et donc, je vis toujours accompagné par ce premier témoignage de mes premières années au Quai d'Orsay, dans ce grand pays qu'est la Chine. Et puis, vous avez ici un cadeau que m'a fait le prince Sihanouk à l'époque, devenu ensuite le roi Sihanouk. C'était les années tragiques de l'après-génocide. J'ai eu l'honneur d'être le négociateur français de l'accord de paix avec le prince Sihanouk pour ramener la paix au Cambodge. C'est l'accord de novembre 1991. Et j'ai passé comme directeur d'Asie des semaines et des semaines, 2 ans, 2 mois et 22 jours, à vrai dire, à accompagner les Cambodgiens, le prince Sihanouk, les partis d'ouverture et de modération, mais aussi les Khmer Rouge, dans une négociation qui a débouché sur un accord de paix, lequel a permis de déployer une force des Nations Unies à travers tout le Cambodge, d'organiser des élections libres qui ont chassé une bonne fois pour toutes les Khmer Rouges, qui sont aujourd'hui en procès organisé par les mêmes Nations Unies. Et en témoignage de reconnaissance, le prince Sihanouk m'a donné cette statue qui représente la tête du premier empereur de l'Empire Khmer, une longue lignée dont Sihanouk est la dernière incarnation. Aujourd'hui, son fils Siamoni lui a succédé sur le trône. Et puis vous avez, pour achever mon parcours, si je puis dire, un très beau livre édité aux États-Unis qui retrace les campagnes du comte de Rochambeau qui, avec Lafayette et l'amiral de Grasse, a été l'artisan essentiel de la guerre d'indépendance des États-Unis. Il y avait beaucoup plus de troupes françaises que de troupes insurgées conduites par Washington pendant cette guerre. Et le comte de Rochambeau, qui était à la tête de milliers d'hommes de l'armée française, est descendu de Newport jusqu'à la bataille de Yorktown et a joué un rôle absolument décisif dans cette bataille. Et ce livre, édité par les Américains, retrace avec des croquis et de façon très vivante les campagnes du comte de Rochambeau. Et je me suis dit que dans le fond, comme ambassadeur aux États-Unis, je me devais de garder ce souvenir de la reconnaissance américaine adressée au peuple français pour l'avoir aidé de façon décisive à obtenir cette indépendance en 1777, enfin toutes les années 1770. Voilà.
Donc un cadeau très symbolique vu le poste que vous avez occupé d'ambassadeur à Washington dans les années 2000. Donc on note votre affection pour l'Extrême-Orient. Vous l'avez dit, vous avez étudié les langues orientales, appris le chinois, le malais et l'indonésien. Vous avez eu un parcours d'études de droit, et puis vous êtes diplômé et lauréat, je note, à l'Institut d'études politiques. Donc c'est le parcours idéal de quelqu'un qui souhaite être diplomate. Vous aviez donc de toute évidence en tête d'intégrer le corps diplomatique très jeune.
Absolument. Il y a deux façons d'entrer au Quai d'Orsay, au plus haut niveau possible d'intégration. La filière la plus classique est celle de l'École nationale d'administration. Et puis, selon le classement de sortie, on peut ou on ne peut pas choisir le Quai d'Orsay. Et bien souvent, les élèves qui sortent choisissent, en fonction de leur rang de sortie, le Quai d'Orsay. Pour les agents d'Orient, c'est différent. Quand on se prépare à intégrer le Quai d'Orsay par le concours d'Orient, c'est qu'on veut vraiment rentrer au Quai d'Orsay, puisque c'est à cela qu'on se prépare à travers des études de plusieurs années. Donc il faut avoir très en amont, en quelque sorte, l'envie, la vocation de rejoindre le ministère des Affaires étrangères.
Et donc un amour pour les langues aussi.
Et une grande ouverture, et même, je dirais, une passion pour le monde, pour l'Extrême-Orient, pour la Chine, que j'ai toujours considérée comme l'autre grande civilisation vers laquelle je souhaitais me tourner. C'est une façon de s'ouvrir l'esprit.
Qui vous a donné le goût de la diplomatie, ou peut-être plus globalement le goût de l'international ? Est-ce que c'est votre mère qui avait des origines, vos deux parents ont des origines étrangères ? Est-ce que c'est lié à ça ?
C'est très difficile de l'expliquer en détail, parce que comment naît une vocation, qui peut le dire ? Mais c'est vrai que je n'ai pas le parcours classique des familles françaises, puisque mon père est né à Yekaterinoslav, qui était encore l'Empire russe, qui est devenu maintenant l'Ukraine, et est arrivé en France à l'âge de 1 an, comme beaucoup de Russes blancs chassés par la révolution bolchevique. Donc il a été éduqué entièrement en France, naturellement, mais il y a une branche russe de côté paternel. Et puis ma mère est née, elle, au Mozambique, mais d'une famille anglo-bourg d'Afrique du Sud, et elle était de nationalité britannique. Et puis mes parents se sont connus dans la résistance à Moissac, et ils se sont mariés à la fin de la guerre, et donc je suis né en 1946. Et donc, en effet, de père et de mère, j'avais, si je puis dire, une vocation à regarder au-delà de nos frontières. Et puis, ce sont les études secondaires qui vous ouvrent l'esprit, et j'avais de très bons professeurs d'histoire et de géographie qui m'ont donné le goût de regarder le monde, de le découvrir, et j'ai continué ensuite avec les langues zo, et je ne le regrette pas.
Parce qu'il existe aussi des grandes familles des diplomates. Vous n'êtes pas dans ce cas. Vous avez votre parcours à vous. C'est un choix personnel.
C'est vraiment un choix. Et je n'imagine pas, 37 ans après avoir rejoint le Quai d'Orsay, une autre carrière. C'est ce qu'on appelle une vocation.
Pas d'autre métier, tout autre, un métier artisanal, un métier...
Non, en fait, j'ai été comblé par cette carrière. Et c'est à la fois la vocation et puis le sentiment d'un épanouissement dans chacune de mes fonctions. J'étais très heureux à chaque étape. Et le Quai d'Orsay, et je le dis pour les jeunes générations, a l'immense avantage de vous offrir tous les 3 ou 4 ans de changer complètement de vie, d'horizon, de métier, puisque j'ai été en charge de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été pendant 11 ans en 3 étapes successives dans le monde des Nations Unies. Je n'ai jamais quitté beaucoup mes amours asiatiques. J'ai été directeur d'Asie. J'ai été 3 fois à l'Élysée, je fais presque partie des meubles maintenant. 6 ans avec le président Valéry Giscard d'Estaing, 5 ans avec le président Chirac, et puis maintenant aux côtés du président Sarkozy. Donc chacune de ces fonctions m'a donné le sentiment de découvrir un peu plus complètement notre planète, des civilisations très différentes, le peuple américain pendant mes années d'ambassadeur aux États-Unis. Et chaque fonction est très différente. Quand vous êtes dans le monde des Nations Unies, c'est la diplomatie multilatérale. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est vous labourez le champ américain et vous parlez au peuple américain, vous êtes à l'écoute du peuple américain, etc. Et donc, le grand avantage de la carrière diplomatique, c'est non seulement de vous permettre de découvrir le monde et puis d'être l'image de la France quand vous devenez ambassadeur, et de négocier parfois des textes importants, comme je le mentionnais, la paix au Cambodge, ou quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies, la résolution 1441 qui a renvoyé les inspecteurs en Irak pour essayer de trouver un chemin qui nous épargne une guerre. Alors ça n'a pas marché, mais on était heureux d'avoir au moins trouvé ce chemin. Et puis ensuite, les Américains ont décidé de ne pas le suivre. Je crois que nous n'avions pas tort de leur conseiller de rester dans la famille des nations plutôt que de s'en écarter. Et ça a été pour moi autant de moments très forts d'expérience professionnelle.
Vous écoutez Canal Académie.
Vous êtes donc spécialisé tout d'abord dans les questions orientales, vous avez été ambassadeur à Pékin, vous parlez de votre amour pour l'Asie, vous avez effectivement beaucoup travaillé au bureau Asie-Océanie à l'Élysée et aux affaires étrangères. Et pourtant, vous parliez de cet accord de 91, on a quand même l'impression aujourd'hui qu'on parle très peu des relations entre la France et l'Extrême-Orient.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'avec retard, les Français perçoivent bien maintenant l'irruption de la Chine comme un acteur majeur du XXIe siècle. Alors, c'est particulièrement visible sur le plan économique. Naturellement, la Chine est en train de nous rattraper, de nous dépasser sur le plan économique. Il serait étonnant qu'il n'en soit pas ainsi. C'est 1,3 milliard de Chinois qui travaillent dur. Mais quand vous voyez la Chine d'aujourd'hui, et quand je me rappelle de ce qu'était la Chine dans les années où j'y ai vécu, c'est-à-dire entre 1971 et 1974, on mesure à quel point l'expérience de la transformation de la Chine est la plus extraordinaire aventure de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu, depuis que l'homme est homme, une transformation d'un peuple aussi rapide et aussi massive. Aussi massive parce qu'ils sont 1,3 milliard, et aussi rapide parce que dans les années 70, c'était un peuple d'agriculteurs qui essayait d'échapper à la famine. C'était un régime communiste pur et dur de Mao. C'était la période de la révolution culturelle. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Pékin, à Shanghai, mais aussi dans les villes de l'intérieur, vous êtes dans le 21e siècle, le plus moderne. Et l'avantage de construire des villes à partir de rien, ou en ayant rasé assez largement le passé, c'est qu'on peut se doter d'immeubles extraordinaires, de modernité, avec les meilleurs architectes du monde. Et je crois que c'est très important, en effet, pour les Français, de percevoir ce qu'est l'irruption de la Chine sur la scène économique mondiale. Et je le dis en soulignant qu'il ne faut pas avoir peur de cette irruption économique de la Chine ou irruption politique, parce que la Chine n'est pas une menace, elle est une opportunité. Ils vendent beaucoup, mais ils achètent tout autant. Et à nous de produire les équipements dont ils ont besoin, à nous de produire les produits de luxe qu'ils se mettent à acheter en masse. La Chine, ce n'est pas seulement une machine à exporter, c'est aussi un appétit de consommation qui est sans limite et qui nous offre des opportunités extraordinaires avec un pouvoir d'achat et une croissance qui augmente de 10-11% chaque année depuis 25 ans.
Là, vous parlez d'économie. Où est la présence de la France d'un point de vue culturel et diplomatique?
Alors d'abord, la Chine, c'est aussi un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, nous nous trouvons côte à côte dans la recherche de règlements de toutes les grandes crises. Je mentionnais le Cambodge. Moi, je passais mon temps à aller à Pékin tout au long de cette négociation parce que nous n'aurions pas réussi à obtenir un accord sans un soutien total de la Chine, du Vietnam, des pays de la région. Et notre rôle en tant que président de cette négociation était précisément d'amener tous ces pays à converger avec nous vers une solution de paix. De plus en plus, la Chine joue un rôle incontournable dans la recherche de solutions aux grands problèmes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Iran, du processus de paix au Proche-Orient, du Darfour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir peu à peu la Chine rentrer dans le jeu de la communauté des nations, le jeu multilatéral, participer aux opérations de paix avec le déploiement d'ingénieurs, de troupes. Et donc, nous aidons la Chine, nous l'encourageons à s'insérer dans la famille des nations comme un acteur positif.
Donc des relations très différentes de ce qu'elles étaient lorsque vous êtes allé aussi à Pékin et vous vous dites que vous avez connu la révolution culturelle dans les années 60.
À l'époque, la Chine incarnait, à travers Mao Tse-tung, la révolution culturelle en l'occurrence, qui a été un désastre pour la Chine. Et la Chine se voyait en leader du tiers-monde pour propager la révolution mondiale. Inutile de dire que ce n'est plus du tout le thème d'aujourd'hui. La Chine est d'abord une machine à importer et exporter, je le disais, mais c'est aussi un acteur de plus en plus actif, responsable, positif, pour la recherche d'un règlement des grands conflits. Pourquoi ? Parce que la Chine a besoin de paix. Quand vous êtes le président de la République populaire de Chine, votre préoccupation numéro un est très simple, créer 25 millions d'emplois chaque année pour les générations montantes, éduquées et qui ont besoin de travail. Et si vous n'y arrivez pas, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés sociales. Et donc la Chine a besoin d'un environnement de paix. Elle a besoin de pouvoir avoir accès aux matières premières, elle a besoin de pouvoir exporter les produits créés par ces générations d'employés qui font irruption sur le marché du travail. Et donc, son intérêt est de contribuer à la paix dans le monde, de façon à ce que les frontières s'ouvrent, les marchandises circulent, les produits puissent être échangés. Et donc, voilà la Chine d'aujourd'hui qui est très différente, évidemment, de la Chine rurale et révolutionnaire de Mao Tse-tung.
Est-ce que la France peut jouer un rôle, on en parle beaucoup, pour faire avancer la question des droits de l'homme en Chine? Nicolas Sarkozy en parlait un peu dans sa campagne, je sais que c'est une préoccupation aussi de Bernard Kouchner. Comment est-ce que vous voyez cet avancement? Est-ce qu'il est très lent ou au contraire, à votre avis?
Alors d'abord, la question des droits de l'homme en Chine mérite un examen attentif. Quand je vivais à Pékin au début des années 70, vous aviez des dizaines de millions de Chinois qui avaient été envoyés en camp de rééducation. Vous aviez des centaines de milliers de prisonniers politiques. Et puis c'était un régime communiste pur et dur. À vrai dire, un régime qui avait imposé au peuple chinois, certes, un redressement spectaculaire, le retour d'une Chine debout, et qui était fière de l'être, mais dans des conditions qui faisaient de la Chine le régime communiste le plus dur qui existait dans le monde. aujourd'hui, vous avez une économie dite socialiste de marché, en réalité une économie capitaliste, avec des progrès du droit qui sont une nécessité absolue pour les affaires, avec une émergence d'une bourgeoisie qui se compte en centaines de millions de personnes, avec un enrichissement généralisé, avec des libertés qui vont avec l'accélération de la croissance du pouvoir d'achat. Et donc, les Chinois d'aujourd'hui ne vivent peut-être pas dans une démocratie modèle, mais ils ont des libertés que leurs parents n'auraient même pas osé envisager. Ils ont tous des téléphones portables, ils téléphonent à travers le monde entier, ils ont tous accès à l'Internet. Alors vous me direz, oui, mais il y a une censure, certes, mais elle est minimaliste par rapport à l'extraordinaire liberté. Des centaines de milliers de touristes chinois viennent chaque année en France. Ils voyagent à travers le monde entier. Et donc, la croissance économique, le développement des entreprises, l'embourgeoisement de la société ont amené une transformation profonde, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Le mouvement n'est pas achevé. Je pense que le régime est très conscient du fait que sa légitimité ne vient absolument pas du marxisme, encore moins du petit livre rouge, mais de la réussite économique. Et que cette réussite économique ne peut se poursuivre qu'avec des progrès des libertés. Parce que vous ne pouvez pas construire une société d'économie de marché sans donner la liberté d'entreprendre, et avec la liberté d'entreprendre, une liberté de la vie quotidienne. Et donc, c'est ce mouvement-là qu'il faut bien intégrer et replacer nos efforts pour accentuer, accélérer ce mouvement des libertés individuelles. Et c'est ce que le président de la République a fait lorsqu'il était en visite en Chine, en plaidant très clairement pour l'abolition de la peine de mort, parce que en Europe, dans l'Union européenne, nous avons décidé d'abolir la peine de mort et de nous faire les promoteurs de l'abolition de la peine de mort à travers le monde entier, qu'il s'agisse des États-Unis, où la peine de mort existe, ou de la Chine, où elle se pratique beaucoup trop. Et puis il a plaidé pour la liberté de la presse. Et puis il a plaidé pour d'autres libertés, et il ne l'a pas fait dans le secret d'une rencontre avec le président Hu Jintao, il l'a fait aussi lors de la conférence de presse qu'il a tenue en présence du président Hu Jintao. Et il a dit les choses, franchement, devant tous les médias.
En revenant à vous, Jean-David Lévite, puisque on commence à parler de Nicolas Sarkozy et du président Hu Jintao, et puis on est plutôt là pour parler de vous aussi. Vous avez donc travaillé à l'ONU, et cela dès les débuts des années 80, donc ça fait 30 ans que vous êtes aux prises avec les questions multilatérales. Et je crois que vous avez œuvré à développer la présence et l'influence française à l'ONU, et particulièrement au Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
La France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et les Français ne réalisent pas assez, je crois, à quel point c'est un privilège que nous devons au général de Gaulle, parce que nous avons terminé la guerre parmi les vainqueurs, et le général de Gaulle a exigé, obtenu, que la France soit dotée de l'un des 5 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. À partir de là, ça nous donne des responsabilités, des devoirs. Nous sommes de toutes les négociations de paix. Nous sommes l'un des principaux contributeurs de casques bleus, et pas seulement des casques bleus, mais nous avons des troupes déployées, alors ça les Français le savent, en Afrique, à Djibouti, au Gabon, au Sénégal, au Tchad. Mais nous avons aussi des opérations de maintien de la paix où nous participons largement, que ce soit au Kosovo et en Bosnie, que ce soit en Afghanistan, en Haïti. Et donc nous sommes en effet un des principaux acteurs de la recherche de solutions de paix et de la mise en œuvre de ces solutions de paix. Quand vous êtes ambassadeur aux Nations Unies, à New York, vous participez chaque jour à ces réunions du Conseil de sécurité pour élaborer des plans de paix. Et puis ensuite, parce qu'on a participé à l'élaboration, il est normal que notre pays se trouve engagé sur le terrain à travers ses troupes. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons eu l'occasion très récemment de nous engager au Tchad, non pas directement, mais en aidant le régime du président Déby, démocratiquement élu, à résister face à une action de troupes de rebelles venues du Soudan. Il l'a fait avec succès et nous déployons actuellement, avec nos partenaires de l'Union européenne, une force européenne à la frontière entre le Tchad et le Soudan pour aider les populations venues du Darfour et qui, par centaines de milliers, se sont réfugiées au Tchad à vivre une vie digne, à l'abri des milices qui, venues du Darfour, faisaient de graves dégâts dans les camps de réfugiés ou de Tchadiens déplacés. Donc voilà un exemple. Nous sommes présents en Afghanistan depuis le début de la guerre, peut-être de plus en plus, ça on le verra dans les semaines qui viennent, mais c'est un enjeu majeur. C'est de Kaboul, c'est d'Afghanistan que sont venus les terroristes qui ont, le 11 septembre, détruit les tours jumelles de New York, Al-Qaïda, les talibans. Et imaginez que nous ne réussissions pas tous ensemble, les pays de l'Alliance Atlantique en Afghanistan, ça voudrait dire le retour d'Al-Qaïda et des talibans à Kaboul. Et donc des menaces pour nos sociétés, comme pour les pays musulmans d'ailleurs. Et donc c'est un enjeu majeur et la France occupe sa place aux côtés de ses alliés en Afghanistan.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la France au Conseil de sécurité ? Est-ce que la France profiterait d'un retrait relatif du Conseil de sécurité au profit de plus d'Europe ? Que l'Europe siège au Conseil de sécurité au nom de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne ?
Non, en réalité, la question n'est pas d'actualité pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas encore de politique étrangère de l'Union européenne. D'habitude, sur les 15 membres du Conseil de sécurité, vous avez deux permanents européens, la France et le Royaume-Uni, et deux non-permanents. Au moment de la guerre en Irak, c'était l'Allemagne et l'Espagne. Et le fait est que nous étions divisés. Les Français et les Allemands étaient farouchement hostiles à la guerre en Irak. Les Anglais et les Espagnols, tout à fait favorable à la guerre en Irak. Si à ce moment-là, nous avions eu un seul siège pour toute l'Europe au Conseil de sécurité, comme membre permanent au nom de l'Union européenne, le malheureux représentant aurait été réduit au silence. Et c'est la démonstration la plus convaincante, je trouve, de la nécessité de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut d'abord qu'on bâtisse une politique étrangère européenne et il nous faudra probablement des décennies avant d'y arriver. Pourquoi ? Parce que nous sommes les héritiers de 2000 ans d'histoire faite de guerre plus que de périodes de paix à travers toute l'Europe. Nous sommes en ce moment dans la plus longue période de paix de l'histoire de l'Europe depuis l'Empire romain. Nous sommes engagés dans une extraordinaire aventure qui n'a pas d'équivalent ni de précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes en train de rapprocher progressivement les peuples d'Europe par la seule volonté démocratiquement exprimée de leur peuple. Et cette grande aventure qui s'incarne dans l'Union européenne nous a conduit à former un marché commun, à nous doter d'une monnaie unique, à nous défendre comme une seule entité dans les négociations commerciales. Mais pour ce qui est de la politique étrangère, pour le moment, chacun y va plutôt sous ses propres couleurs. Et puis quand on y arrive, on se met ensemble. Mais il arrive encore, et assez souvent, que nous ayons plus que des nuances entre nous. Alors, on essaye de faire mieux la fois suivante. Mais enfin, pour le moment, il n'y a pas de politique étrangère de l'Union européenne digne de ce nom. Et donc, nous avons besoin de nous exprimer chacun sous nos propres couleurs, même si on essaye de se coordonner le mieux possible à New York et dans les différentes enceintes internationales.
Parlons de vous, Jean-David Lévit, et de votre façon de travailler à l'ONU. J'ai entendu dire que vous réunissiez régulièrement les ONG pour leur faire part de ce qui se disait au Conseil de sécurité. D'où vous est venue cette idée ? Est-ce que vous seriez prêt à la reproduire en France ?
Je crois que c'est très important d'avoir un dialogue régulier avec les ONG. Quand j'étais directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le tiers du budget du Quai d'Orsay, et 22 000 collaborateurs à travers le monde, c'est tout notre réseau culturel, les instituts français, les alliances françaises, etc. J'avais un dialogue permanent avec les ONG. Et j'ai voulu maintenir ce dialogue quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies et même quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. J'avais créé un poste de conseiller pour dialoguer avec les ONG américaines. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les ONG vivent sur le terrain. Quand vous êtes diplomate, vous vivez dans la capitale, vous essayez d'avoir des contacts très larges, mais vous ne pouvez pas avoir un contact avec les réalités du terrain aussi fort que celui que les ONG ont. Médecins sans frontières et dans les montagnes de l'Afghanistan ou de l'Érythrée ou de Birmanie, les ambassadeurs sont dans les capitales. Et si vous voulez savoir ce qui se passe sur le terrain, ben, il faut être en dialogue avec les ONG. Et donc c'est important d'être à l'écoute des ONG, c'est important d'aider les ONG, c'est important de les utiliser, si je puis dire, comme partenaires pour la mise en œuvre de nos programmes de coopération. Elles sont souvent mieux équipées pour réussir des programmes de proximité au contact direct des populations. Et donc, en effet, je suis un ardent promoteur du dialogue et de la coopération entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales.
Et en France, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi ?
Je vois régulièrement les ONG ici, dans ce bureau. Et le président de la République, Nicolas Sarkozy, a souhaité lui aussi avoir un contact régulier avec les ONG. Alors il les réunit tous les 3 mois à peu près, par thème. La dernière fois, c'était pour parler des questions de santé dans les pays en développement, de la lutte contre le sida. C'était à la veille de la reconstitution du Fonds mondial pour aider à lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria. Et le dialogue a été extraordinairement utile. Utile pour le président de la République à écouter le point de vue des ONG, et je crois utile pour les ONG de savoir quelle était la position du président de la République sur ces dossiers. Mais il faut qu'on ait de telles réunions pour parler de la négociation sur le climat, pour parler des problèmes de développement. Et donc le président de la République a bien l'intention de poursuivre ce dialogue.
Vous écoutez Canal Académie.
Jean-David Lévite, on comprend bien que en fait, votre parcours se confond avec l'histoire diplomatique de la France, en quelque sorte. Et vous avez connu, vous avez été aux premières loges d'un événement qui a beaucoup marqué les Français et les relations bilatérales franco-américaines. En 2002 et 2003, à la veille de la guerre en Irak, vous étiez alors tout d'abord aux Nations Unies, puis ensuite vous avez été nommé ambassadeur à Washington. J'ai lu des choses sur cette période-là et j'ai entendu dire que vous étiez tout petit peu sorti du rôle habituel d'un ambassadeur en lançant une lettre ouverte aux Américains pour dénoncer ce French bashing qui se pratiquait à l'époque. Et vous aviez même fait une liste, je crois, des insultes à l'égard des Français. Ça n'a pas été facile comme période en tant qu'ambassadeur, j'imagine. Vous avez dû utiliser des méthodes un peu spéciales.
J'ai été confronté à la plus grave crise dans les relations franco-américaine de ces dernières décennies. Et il faut bien comprendre pourquoi le peuple américain s'est engagé dans ce que vous appelez le French bashing, c'est-à-dire la critique systématique de tout ce qui est français. Et quand je dis systématique, c'est violente. Lorsque les tours jumelles de New York ont été détruites par les terroristes d'Al-Qaïda, la France, le peuple français, se sont tout de suite portés aux côtés des Américains. Et Jacques Chirac, d'ailleurs, a été le premier chef d'État étranger venu exprimer la solidarité du peuple français au peuple américain dans l'épreuve. Et ça a été extraordinairement bien reçu. Et puis, les dirigeants américains ont réussi à convaincre, à tort, le peuple américain que Saddam Hussein et l'Irak, c'était la même chose que Al-Qaïda et l'Afghanistan. Nous savons, les Américains savent aujourd'hui, que ça n'était pas du tout le cas. Lorsque nous avons dû voter au Conseil de sécurité, avec une majorité de pays, nous avons exprimé très fortement notre refus d'une guerre qui n'était pas nécessaire puisque les inspecteurs étaient déployés en Irak et recherchaient les stocks d'armes de destruction massive, pour conclure d'ailleurs qu'il n'y en avait pas, et les Américains ont dû le reconnaître. Et nous martelions qu'une guerre en Irak aurait des conséquences graves, dangereuses, pour le monde entier, et d'abord pour le peuple irakien. Et donc, ce langage faisait partie du débat américain jusqu'au moment où la guerre a commencé. Quand la guerre a commencé, tout naturellement, le peuple américain, comme un seul homme, s'est porté derrière ses troupes déployées sur le terrain dans une situation très difficile. Et nous, nous nous sommes retrouvés dans la position de ceux qui avions fortement critiqué la guerre. Et donc, il y a eu une sorte de rupture du pacte d'amitié. C'est comme ça que les Américains l'ont vécu. Nous avons été le pays qui les a le plus aidés à obtenir leur indépendance. Ils nous ont aidés de façon décisive à deux reprises au XXe siècle, à terminer la Première Guerre mondiale avec leur débarquement à nos côtés en 1917 et puis le débarquement le 6 juin 1944 en Normandie. Et nous sommes toujours retrouvés dans les grands combats pour la démocratie, pour nos valeurs partagées. Et cette fois-là, dans une Amérique déstabilisée par le 11 septembre, la France leur disait « Non, vous avez tort d'aller en Irak, c'est une grave erreur et nous allons tous le payer. » Et donc ça a déclenché une vague de critiques violentes contre la France. Et donc mon rôle était de continuer à expliquer calmement aux Américains pourquoi nous avions adopté cette position-là et que malgré cette divergence, ce désaccord profond, nous restions des amis et des alliés. Beaucoup de spécialistes en communication m'avaient dit « Laissez la vague passer, elle est trop forte, elle est trop violente, vous ne pourrez rien changer. » J'ai adopté la position exactement inverse pour deux raisons. La première, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, vous comprenez que celui qui accepte le débat, qui participe au débat, qui monte sur le ring, est écouté parce qu'il est respecté. Celui qui refuse le débat, il est ignoré, il est méprisé. Deuxièmement, 300 000 Français vivent aux États-Unis. Or, il faut savoir que pour les Français, à cette époque-là, vivre aux États-Unis était un vrai calvaire. Les petits-enfants français qui étaient dans les écoles américaines se faisaient insulter. Il y a eu des incidents graves. Et donc, mon devoir était de monter sur le ring et d'expliquer chaque jour, dans les médias américains, sur les télés, sur les radios, d'une côte à l'autre, dans l'Amérique profonde, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, oui, nous avons un vrai désaccord sur la guerre en Irak, mais nous restons des amis, des alliés, et nous nous retrouverons à la fin de cette épreuve pour continuer à construire ensemble un monde meilleur. Ce langage-là a fini par être entendu à mesure que les Américains ont réalisé, un peu tard, qu'après tout, la France avait peut-être raison.
Vous avez donc été amené à sortir un peu, pas de vos gonds, mais des gonds diplomatiques habituels, on va dire.
Non, je ne suis jamais sorti de mes gonds. D'adopter un ton serein, calme, ferme, bien sûr. Et vous avez évoqué la lettre que j'ai envoyée. En fait, c'est une lettre ouverte au président Bush, à tous les membres du gouvernement américain, à tous les membres du Congrès, à tous les médias, pour dénoncer une campagne de désinformation systématique de ce que faisait la France. Pour vous donner juste un exemple, quand Bagdad est tombé, les Américains n'ont pas trouvé Saddam Hussein. Et immédiatement, le Pentagone a annoncé que si on ne trouvait pas Saddam Hussein, c'est parce que la France avait donné des passeports et des visas à Saddam Hussein et à toute sa famille pour leur permettre de s'échapper. C'était évidemment un mensonge, mais ça a été annoncé par le porte-parole du Pentagone. Et immédiatement, des centaines de milliers d'Américains nous ont envoyé des emails insultants en disant « Mais comment pouvez-vous nous faire des choses pareilles ?» C'était complètement faux. Et donc, ma lettre avait pour objet de dénoncer une campagne de désinformation des autorités américaines qui était tout simplement inadmissible. Le fait est qu'après cette lettre ouverte, non seulement j'ai pu rester aux États-Unis, mais la campagne de désinformation a immédiatement cessé.
Oui, je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Je crois que ça vous a valu un respect aux États-Unis et je crois même que vous êtes très apprécié, j'ai cru comprendre, là-bas.
Je crois que parler franchement aux Américains, mais leur faire comprendre qu'en leur disant les choses en face, mais avec amitié, c'est le propre d'un ami vrai, d'un ami sincère, a été compris, entendu et en effet respecté. Je crois que le fait, par exemple, que le 60e anniversaire du débarquement ait pu être célébré le 6 juin 2004, un an après le début de la guerre, dans des conditions extraordinaires, où des centaines de milliers de Français ont dit merci à l'Amérique ce jour-là, leur a montré que non seulement nous n'étions pas des ingrats, comme on ne cessait de me le dire, mais que nous savions faire la part des choses, et que si nous étions contre la guerre en Irak, nous étions reconnaissants aux Américains de nous avoir libérés du joug nazi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce message d'amitié et de reconnaissance, ce jour-là, a été compris par des centaines de millions d'Américains, 300 millions d'Américains. Et j'avais monté, pour cette occasion, une grande opération où j'avais invité 100 vétérans de D-Day, du débarquement du 6 juin 1944, encore vivants, venus de quatre coins des États-Unis avec leur famille, à venir en France, être accueillis par le président de la République, être présents sur les plages de Normandie et recevoir le témoignage d'amitié et de gratitude des Français. Je crois que c'est ce type d'opération qui a permis aux Américains de comprendre ce message simple. Oui, nous sommes en désaccord, c'est vrai, un vrai désaccord sur la guerre en Irak, mais non, nous ne sommes pas des ennemis, nous restons des amis et des alliés.
Certains analystes ont vu votre rappel à l'Élysée par Nicolas Sarkozy comme une façon d'asseoir une politique plus atlantiste. Est-ce que vous assumez ce commentaire ?
Je crois que Nicolas Sarkozy, candidat, avait annoncé à de nombreuses reprises qu'il se considérait comme un ami des États-Unis, un ami de l'Amérique. Et donc, je ne suis pas là, à l'Élysée, pour le pousser dans cette direction. C'est le chemin exactement inverse. Je crois que c'est peut-être parce qu'il avait pu observer, lors de ses nombreuses visites aux États-Unis, le parcours que je faisais, qu'il trouvait que c'était un parcours intéressant et qui correspondait, en effet, peut-être au regard qu'il portait, avant même d'être élu, sur la relation transatlantique. C'est un grand honneur d'être appelé à ses côtés. J'ai immédiatement dit oui. Et le lendemain, je suis arrivé à Paris avec deux valises pour le rejoindre et prendre mes fonctions dans le rythme d'enfer qui est celui de la mise en place d'une nouvelle administration, d'un nouveau gouvernement, et puis toutes les échéances qui se précipitent sur vous, le premier Conseil européen, le premier sommet du G8, les relations bilatérales, etc. Et en réalité, je crois que le président de la République doit être d'abord perçu comme un très grand Européen. Ce qui m'a frappé en le rejoignant, c'est la priorité immédiate qu'il a donnée à ce qu'on appelle aujourd'hui le traité simplifié. Et il faut savoir que le non-français au référendum sur la Constitution européenne nous avait littéralement placé sur le banc de touche. Nous avions proposé une constitution et le peuple français l'avait refusée. Et donc, il était impératif pour le président de la République de montrer aux Européens et aux Français que nous avions la volonté de retrouver notre place au cœur de la grande aventure européenne en proposant un chemin pour sortir de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous étions depuis des années. Et ça a marché. Ça a marché parce que Nicolas Sarkozy s'est très bien entendu avec Angela Merkel qui exerçait la présidence de l'Union européenne. Son dynamisme, son énergie ont fait merveille. Nous avons pu ainsi, en quelques semaines, aboutir à un accord sur les grandes lignes, puis à l'automne, à un accord sur le traité simplifié que la France vient de ratifier parmi les premières. Et donc c'est un succès absolument majeur. Nous revoilà au cœur de l'Union européenne, en initiative, en leadership, à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne. Et il est important aujourd'hui d'être à l'écoute de ce que nos partenaires européens, les 27, les 26 autres, attendent de nous pour que la présidence française soit utile non seulement dans la relation franco-européenne, mais au service de l'Europe tout entière. Et donc ça, c'est la grande ambition de Nicolas Sarkozy pour l'Europe. Et pour le reste, vous l'avez peut-être entendu dans ses principaux discours de politique étrangère, il a une vision claire de ce que le monde sera au XXIe siècle, un monde multipolaire, où bien sûr les États-Unis resteront la première puissance dans les décennies à venir, mais où on voit déjà émerger les puissances de demain qui occupent de plus en plus toute leur place, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie qui est de retour. Et dans ce monde multipolaire en formation, il est absolument essentiel que l'Union européenne puisse devenir l'un des grands du monde multipolaire du XXIe siècle. Voilà l'ambition, voilà la vision, et naturellement, le lien transatlantique dans ce monde multipolaire en formation est essentiel, mais dans une relation équilibrée. Et c'est ça qui est important pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut réussir l'émergence de l'Europe puissance. Une Europe capable non seulement de réussir sur le plan économique, de réussir le modèle social européen, de réussir dans la grande compétition économique mondiale, mais aussi capable d'affirmer sa vision, ses valeurs, son regard sur le monde en construction, d'apporter sa contribution à la paix, à la résolution des crises, la main dans la main avec les États-Unis, mais dans une relation positive avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. Et c'est tout le sens de ses premiers déplacements à Pékin, à Delhi, la semaine dernière en Guyane avec le président Lula du Brésil. Et donc voilà, en quelques mots, la politique étrangère du président de la République que j'ai l'honneur de servir.
Notre entretien touche à sa fin. Est-ce que je peux vous poser une question sur votre place à l'Académie des sciences morales et politiques? Pourquoi êtes-vous entré dans cette académie? Quelle place souhaitez-vous y prendre?
Pour tout vous dire, je n'avais jamais imaginé être candidat à l'Académie des sciences morales et politiques. L'idée est venue d'une initiative de Pierre Mesmer, un géant, un homme pour qui j'avais un immense respect, que je connaissais un petit peu, et qui, m'a-t-on dit, avait souhaité voir à nouveau un diplomate siéger parmi les membres de l'Académie. Et puis il avait été plus précis, il avait dit « il nous faut un diplomate et il nous faut Jean-David Lévite ». Et j'ai reçu une délégation qui est venue m'expliquer que ce serait bien que je me porte candidat. Alors j'ai fait campagne, j'ai été rendre visite comme il se doit, après leur avoir envoyé une lettre manuscrite à tous les membres de l'Académie pour leur expliquer ce que représentait pour moi, à mes yeux, l'Institut. Et ce que j'ai expliqué, c'est l'extraordinaire rayonnement international de l'Institut. Pas seulement de l'Académie française, mais des académies. Je pouvais en parler en tant qu'ancien ambassadeur aux États-Unis, naturellement. Ça, je mesure le rayonnement de l'Institut aux États-Unis, dans les universités, partout. Mais aussi en tant qu'ancien directeur général des relations culturelles, j'avais pu mesurer à quel point cette institution de la République a une place exceptionnelle dans le rayonnement culturel de la France à travers le monde. Donc c'était une des raisons qui m'ont amené à me porter candidat. La deuxième raison, c'est que même si un diplomate de carrière est astreint par le devoir de réserve à ne pas publier, je passe mon temps à écrire des notes pour le président de la République, écrire des discours, et ce travail d'écriture, de réflexion, qui n'est pas public, mais qui est intense, m'a toujours donné le goût du dialogue avec les autres. Et avoir le privilège, une fois par semaine, de dialoguer au sein de l'Académie des sciences morales et politiques avec des personnalités hors pair, venues d'horizons très différents, je pense que c'est un privilège unique. Et j'ai été extraordinairement honoré d'avoir été choisi, élu, et chaque fois que je le peux, je me rends le lundi après-midi aux séances, ce sera le cas lundi prochain.
Monsieur Lévite, toute dernière remarque, j'ai lu une petite anecdote d'un de vos anciens collaborateurs qui avait confié au journal Le Monde. On ne connaît pas l'homme, donc vous, Jean-David Lévite, et on se dit, ne cherchons pas. En même temps, on a envie de lui demander quel est son secret. Est-ce que vous voulez répondre à votre ancien collaborateur ?
Écoutez, il n'y a pas de secret, il y a une passion. Celle que j'ai essayé de vous faire partager pour le métier que j'ai choisi par vocation, celui du service diplomatique. Je pense que servir la République française, servir la France, est un très grand honneur. Un honneur, une charge, une responsabilité, mais j'ajoute un plaisir de tous les jours, parce que les Français ne le mesurent pas suffisamment, mais notre pays est écouté à travers le monde entier. Il y a un appétit de France. Il y a une volonté d'être à l'écoute du message de la France. Je crois que nous avons un vrai devoir de répondre présent à cette attente qui existe à travers le monde entier. Nous avons un message singulier, à nul autre pareil, qui est le résultat de notre longue histoire, des valeurs que nous avons peu à peu forgées et qui s'incarnent dans les trois mots de liberté, égalité, fraternité, qui sont connus à travers le monde entier. Et que nous avons vocation à faire vivre, mais aussi à actualiser les peuples du monde, les dirigeants du monde, et je le dis sans vouloir trop forcer la note, aiment entendre le message de la France. C'est un message que nous devons faire vivre en étant à l'écoute des peuples du monde, en comprenant leurs attentes, leurs souhaits, en y répondant du mieux que nous pouvons, et donc être associé à cette grande tâche est un honneur et un plaisir quotidien.
Merci beaucoup, Monsieur Lévite.
Merci.